Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter la faute.
Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire des bénéfices à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler, ouais, les 2 heures. Je suis chômeur, je suis pointé. Moitié-moi.
Bonsoir. Alors, on est un effectif réduit ce soir. Ne vous attendez pas à une émission très fournie, mais on a quand même quelques infos à faire passer.
Donc on va, comme d'habitude, faire un petit tour à l'international. Et on va... Notre camarade ici présent va nous faire un rappel de la situation en Guinée, qui là c'est de pire en pire. On va revenir après sur notre territoire métropolitain pour aborder la folie des grandeurs de notre cher et grand camarade Mélenchon. On va quand même prendre des nouvelles de la plaine parce que bah, c'est quand même un peu important ce qui est en train de se passer là-bas. Et on va finir par une très triste nouvelle qui est le maintien de la différenciation des homosexuels au niveau du don du sang. Donc on finira par le local en faisant un petit retour sur la grève qui a eu lieu ce week-end chez les livreurs Deliveroo, et avant de faire un dossier qu'on avait préparé depuis un certain temps, ils se sont dit que ce serait bien le moment sur faire un récap de l'affaire Benalla, là où on en est et là où on va. Donc bah, c'est parti pour la Guinée.
Est-ce qu'on est prêt pour la Guinée ?
On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Il faut dire que juste, il y a vraiment des violences politiques aujourd'hui qui se passent en Guinée. Et c'est pour, disons, c'est suite à ces élections communales et communautaires qui se sont déroulées en Guinée. Disons au mois de février 2018, une élection, si vous voulez, communales et communautaires qui devraient être organisées depuis 2011. Mais malheureusement, il y a eu vraiment beaucoup de soucis pour l'organisation de ces élections. Et notamment, il y a eu des manifestations par après pour qu'on puisse organiser les élections. Il faut rappeler qu'il y a eu 96 jeunes qui sont tués par balle par la police. Jusqu'à aujourd'hui, on ne parle pas de la justice. Mais le souci, ce n'est pas ça. Le souci, c'est quand on investit des milliards en Guinée, disons parce qu'on sait que c'est un pays aussi pauvre, plus de 300 milliards des francs guinéens, on peut estimer à 30 millions, je ne sais pas, d'euros qui ont organisé, qui ont investi pour ces élections. Sauf que quand ces élections étaient organisées, il y a eu beaucoup d'inégalités, je ne sais pas si j'arrive, et il y a eu beaucoup de fraudes, et notamment il y a des manifestations pour qu'on puisse réellement, si vous voulez, annuler certains endroits où il y avait beaucoup de fraudes électorales, sauf qu'ils ne sont pas entendus, il y a des manifestations, il y a aussi des morts. Et puis après, l'opposition et le pouvoir se sont entendus sur certains points. Ils ont, disons, en quelque chose, j'aime toujours dire cette phrase, ils ont laissé les principes pour des compromis et cela paye toujours cher. Donc il faut dire que suite à ces compromis, ils ont partagé certaines zones où ils sont réellement sacrifiés, parce que c'est des partis qui sont en Guinée, c'est l'opposition et le pouvoir, sauf qu'au sein de l'opposition, il y a plusieurs partis, mais le seul parti qui, notamment, a de poids au niveau de l'opposition, c'est l'IFDZ, le principal parti de l'opposition. Alors, ils ont partagé, sauf qu'il y a la troisième, si vous voulez, ville du pays qui est Kindia, non pas très loin de Conakry, la capitale. Et normalement, pour dire les choses exactement, c'est l'opposition qui devrait revenir à cette partie du territoire. Sauf que celui qui est notamment, normalement censé être élu maire n'est pas aujourd'hui le maire actuel, parce qu'il y a eu vraiment des négociations entre le parti au pouvoir et certains partis politiques qui, notamment, avaient un seul élu dans cette zone, alors que l'IFDZ avait 17 et le parti au pouvoir avait 17. Donc ils se sont dit, normalement, dans cette zone, on donne cette partie à l'opposition. Sauf que celui-là n'est pas accepté comme maire parce qu'il serait n'est pas origine de cette ville qui est Kindia, il vient d'une autre région. Souvent, ce sont des techniques et des stratégies des hommes politiques divisés pour régner. Donc, ils ont fait un mal contre ce dernier, contre la population de cette localité qui n'a pas voulu une partie de cette communauté. On ne va pas dire toute la communauté parce qu'il a eu quand même 17 conseillers. Cela veut dire qu'il a un électorat. Sauf que là, c'est pas lui qui est élu et il y a eu vraiment des pagailles. Il y a eu même des incendies. Ils ont incendié la maison d'un de ses proches parce qu'on estime que dans ces pays, on estime que la politique et l'ethnie, ce sont des choses qui vont ensemble, alors que c'est des choses différentes, censées être différentes. Et aujourd'hui, c'est l'ethnostratégie qu'ils font. Et maintenant, c'est les populations locales qui habitent dans cette localité qui, depuis 15 ans, disons d'une dizaine d'années, aujourd'hui, qui se battent, qui souhaitent la mort des autres et dire traiter certaines des immigrés dans cette zone. C'est pour vous dire que l'immigration aussi, ça date un peu long, ça date même là-bas. Et donc, il y a certains qui sont aujourd'hui traités des immigrés de cette zone parce que, tout simplement, ils viennent d'une autre zone. Donc, c'est horrible. Et il faut dire qu'il y a eu 4 morts dans cette région depuis ces événements, disons depuis la semaine dernière, mais aussi dans d'autres aussi zones. On a appris ce matin à travers un site local qui est Guinée News. Je ne fais pas la publicité de Guinée News, mais aussi ils ont affirmé qu'il y a eu vraiment aussi d'autres incidents dans certaines localités aussi du pays où il y a eu plusieurs blessés et beaucoup de détenus.
Très bien. Et ben, comme je crois que c'était notre seul sujet international, on va écouter une petite musique. Peut-être.
Si.
Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Et sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole nous reviendra pas. Jour de la fête à Julo, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on sert à Beaujolais vrai de vrai un hectare de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris, devant le rouleau, à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des verres. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup. Ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a très passé le soir même et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement.
Et on est toujours sur Canu Info.
La plus rebelle des radios.
Ouais. On va passer à la rubrique nationale et parler un petit peu de Mélenchon, parce que c'était difficile de ne pas en parler. Et Mélenchon s'est fait perquisitionner. Enfin, plus largement, ce sont les locaux de la France Insoumise et plusieurs attachés parlementaires, en plus de Jean-Luc, qui font l'objet d'une perquisition. Je le rappelle parce qu'à l'entendre, on croirait qu'il est personnellement visé. Si vous avez raté les vidéos, n'hésitez pas à aller voir ça sur YouTube. Mélenchon se filme lui-même s'insurger contre la perquisition qui a lieu à son domicile. Et c'est quand même assez drôle de l'entendre dire que sa personne est sacrée et que la République, eh ben, c'est lui. Il y a aussi des images où on le voit avec d'autres parlementaires essayer puis réussir à entrer de force dans les locaux de la France Insoumise pendant qu'elle est perquisitionnée. Ça en vient même aux mains. On le voit se comporter comme un chef charismatique. Il appelle ses militants à venir le défendre, à empêcher la perquisition. Il veut même la faire annuler. On rigole un peu parce que c'était le premier à critiquer Fillon ou Marine Le Pen lorsqu'ils se plaignaient de leur propre perquisition. La perquisition concerne quelque chose qui est bien à la mode en ce moment, des soupçons d'emploi fictifs et des irrégularités dans les comptes de campagne. Et malheureusement pour Mélenchon, il semble que des choses ressortent déjà de cette perquisition, notamment sur l'ex-directrice de communication de campagne de Mélenchon, Sophia Chikirou, qui en tant que gérante de la société Mediascope aurait facturé surfacturé des prestations à la France Insoumise. Pour le moment, tout n'est pas encore sorti, donc on vous en reparlera sûrement, mais ce qui est sûr, c'est que Mélenchon vient de se tirer une bonne épine dans le pied, d'autant plus qu'il a récemment refusé de répondre à une journaliste qui lui posait une question qui le dérangeait, en se moquant de son accent et en réclamant une question en français. France Info porte aussi plainte contre lui pour avoir appelé ses militants à harceler ses journalistes. Bref, c'est mal parti pour le petit chef Mélenchon.
Et donc oui, Mélenchon, eh ben, on va aller dans un de ses fiefs, voir ce qui se passe. On va descendre plus au sud et on va redescendre donc à Marseille pour voir ce qui se passe. Donc à Marseille, on a déjà parlé la semaine dernière, il y a donc cette grande place, la place Jean Jaurès, qui est dit le quartier de la Plaine et qui est, sur laquelle est en train de se construire. Enfin, ça a des souvenirs assez frais pour pas mal de gens. Une véritable ZAD en fait en train de se mettre en place pour s'opposer au grand projet, un des nombreux grands projets inutiles qui est en train de se construire sur place. Donc en deux mots, parce qu'on a déjà parlé et puis ça commence à faire un peu le tour des médias, il y a une volonté de refaire entièrement toute la place en supprimant beaucoup de choses qui existent sur place et auxquelles la plupart des habitants sont fortement attachés. Ça mettra au chômage pas mal de monde et ça bousillera l'économie locale pour un intérêt principal qui est une augmentation du niveau de vie et clairement un remplacement des populations pauvres par des populations plus aisées. Donc ces affrontements ont lieu quasiment tous les jours sur place, où les ouvriers qui interviennent le font sous escorte policière, policiers extrêmement lourdement armés avec des lance-grenades à répétition, enfin un certain nombre d'armes qui sont décrites sur le site camarade des amis sur place, c'est pas de mars-info Mars Info, oui, donc, et que vous pourrez donc aller voir pour plus de détails et de suivi au quotidien. Mais les quelques grandes lignes qui nous concernent, là, c'est quand même, il y a eu au moins quatre blessés très graves qui ont dû être hospitalisés. Il y a quasiment eu une dizaine d'arrestations sur la semaine. C'est le point de la caisse de saut locale. Et il y a un appel quotidien à venir. Et là, vu que c'est les vacances, cet appel, on le lance au niveau national à tous les camarades qui ont la motivation d'aller sur place pour défendre, reconstruire, replanter des plantes là où les arbres ont été détruits, reconstruire le kiosque qui a été démonté, reconstruire le boulodrome, aider à faire plein de choses sur place et continuer à faire vivre cette place qui est une place très vivante et très populaire et dont à peu près personne, à part la Soleam qui est l'organisme qui veut faire les travaux, souhaite voir vraiment transformer. Donc pour lancer, parce que vu qu'on a du temps et qu'on aime bien ça, on va faire un petit hommage musical en passant par un groupe local. C'est Massilia Sound System, Ma ville est malade.
Tu le sais, cousin, à Marseille comme partout en France, dans tous les villages, dans tous les quartiers, il est urgent de reprendre la parole et de cesser d'avoir peur. Boule les gars. La grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité, elle fut construite par des immigrés. Depuis bien longtemps, elle vit en paix, dans le respect de toutes les communautés. Mais depuis 10 ans, dans la tête des gens, de drôles d'idées commencent à germer. Mais ma ville tremble, ma ville est malade, devant le Maine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, devant le Maine jusqu'aux Écalades. Il y a des Arméniens, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Italiens, il y a des Marocains, il y a des Comoriens. Ici se trouve rassemblé presque tout le genre humain. La cité a été bâtie grâce à ses millions de mains. Tout le monde vit sa vie et beaucoup s'y trouvent bien. La culture de ce pays qu'on appelle Occitanie a toujours su intégrer les gens de tous les pays. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis, mais je reprends mon argument, je développe, je poursuis. Car ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Les gens venus de partout qu'on appelle les migrants, nous en avons pour voisins, certains sont nos grands-parents. Ils font leur bout de chemin et un jour ont des enfants, d'adorables chérubins avec de jolies mamans. Mais vous savez les enfants, ça va toujours grandissant. Et voilà qu'un bon matin, le bambin fête ses 3 ans. Il va nous parler enfin, toute la famille attend. Il ménage son effet, en fait il prend tout son temps. Il ouvre la bouche et dit maman j'ai faim avec l'accent. Et pourtant ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Tous les samedis au stade Vélodrome, tous les supporters s'écrient comme un seul homme. Allez l'OM, on est tous avec toi. Allez l'OM, les Marseillais seront toujours là. Pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'elle soit soudée. Et ça je crois bien que personne ne peut le contester. Le jour vert, c'est bien mieux que de s'enfermer si c'est pas clair. Dès que ne peut s'y retrouver, monsieur le maire, c'est à vous que je viens parler, c'est d'un repère dont ont besoin les Marseillais, respirer l'air. Je crois bien qu'il est pollué d'eau à la mer. Nous ne pouvons plus reculer, alors ouvrons un grand débat. Parlons d'identité, montrons à tous ces pépons que nous savons ce que c'est. La Provence a des valeurs, j'ai dit l'hospitalité. Oublions le doute et la peur, c'est de l'avant qu'il faut aller. Et pourtant, ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, nous avons tous grandi autour du même lacidon. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, nous allons tous au stade chanter les mêmes chansons. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, Marseille a des problèmes, ensemble on a les solutions. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, si l'on aime notre ville ensemble, disons non au front. Si l'on aime notre ville ensemble, disons non au front. Si l'on aime notre ville ensemble, disons non au front. Si l'on aime notre ville ensemble, disons non. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade. Hey. jusqu'aux Égalades. Oh.
On est de retour.
C'était pas mal quand même comme musique, non?
Ça, en tout cas, ça donne la pêche et ça fait du bien. Donc, on souhaite aux copains sur place ben, le grand courage. On va essayer de passer dès qu'on peut pour vous donner des coups de main. Et puis, en tout cas, ben, d'ici là, on continue à relayer l'info. Et puis, voilà.
Et pour finir sur le national, une toute petite brève sur le don du sang. Vous le savez peut-être, mais quand on est homosexuel et qu'on veut donner son sang, on ne peut le faire déjà que depuis 2016 et seulement si on n'a qu'un seul partenaire sexuel, si on a eu qu'un seul partenaire sexuel dans les 12 derniers mois. Ce critère existe aussi pour les hétérosexuels, mais il ne s'étend que sur 4 mois. Cette restriction a failli sauter, mais l'Assemblée nationale a refusé la proposition de loi. C'est pas la première fois. Cette différenciation n'a pourtant aucune raison d'être, ne serait-ce que parce que tous les dons de sang sont évidemment testés avant d'être transmis, et puis aussi parce que si le nombre de partenaires sexuels fait augmenter le risque d'attraper une maladie ou une infection sexuellement transmissible, c'est le cas à la fois pour les homosexuels et à la fois pour les hétérosexuels. Il n'y a donc aucune raison de maintenir cette différence, si ce n'est pour perpétuer l'idée que les homosexuels seraient par nature en moins bonne santé que les hétérosexuels, et pour faire perdurer la confusion entre comportement sexuel, qui peut être dit à risque, et orientation sexuelle, ce qui n'a absolument rien à voir. Et c'est tout pour ça. Je pense qu'on passe directement au local. On n'a pas grand-chose de local. Je voudrais juste vous signaler quelque chose qui est très peu médiatisé et que vous pouvez peut-être soutenir. C'est les coursiers à vélo de Deliveroo qui ont commencé une grève et qui se retrouvent tous les jeudis, apparemment tous les jeudis à 14h, aux 4 places Amédée Bonnet. 4 places à mes débonnés, si vous voulez aller les voir, vu qu'on ne parle pas du tout d'eux, ça pourrait peut-être leur faire plaisir.
Et donc, bah voilà, bah, vu qu'on a du temps et qu'on est en avance et qu'on vous a préparé un dossier, bah, on va démarrer par un super générique et on vous retrouve juste après.
Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron.
Alexandre Benalla et le...
Benalla.
Et Alexandre Benalla.
Alexandre Benalla.
Et dire qu'il y a moins de 2 jours, personne ne connaissait le nom d'Alexandre Benalla.
Le 1er mai 2018, à Paris, des affrontements éclatent entre des manifestants et les forces de l'ordre.
Sur plusieurs vidéos, on le voit ici plaqué au sol un jeune homme, là agressé une jeune femme, en marge d'une manifestation et en portant plusieurs signes distinctifs d'un policier, ce qu'il n'est pas.
Alexandre Benalla vous fait une béquille pour vous asseoir et au sol, Alexandre Benalla vous met un coup de pied dans le ventre.
Il y avait quelques jeunes manifestants qui lançaient des ballons de couleur. Enfin, c'était pas méchant, il n'y avait rien de... Il n'y avait rien de dangereux. Tout était très calme. Après que les CRS se soient énervés, il y a eu une charge.
Fait de complicité, de détournement d'image. En effet, mercredi dernier, juste après les premières révélations du Monde, Benalla aurait obtenu de ses amis policiers une copie de la vidéosurveillance captée le 1er mai, place de la Contrescarpe.
Donc juste après le selfie, Alexandre Benalla m'a précisé qu'il fallait que je reprenne le temps après mon service de regarder la photo. On sentait que c'était pas une blague en disant il y a quelque chose qu'il faut que tu regardes. Après qu'il soit parti, on a finé notre travail et c'est là qu'on s'est posé donc avec des collègues pour regarder cette fameuse photo qui a capté qu'il y avait une arme du coup sur cette photo que Alexandre Benalla tenait.
Si j'avais eu un fils, j'aurais aimé qu'il ait la justesse et les codes d'Alexandre. C'est un gamin qui a un code d'honneur.
Oui.
Oui, le code d'honneur d'Alexandre Benalla. Vous en avez entendu parler 1000 fois déjà, mais on va quand même commencer par un petit rappel des faits. Le 1er mai dernier, traditionnelle journée de manifestation, et dès le lendemain, sort une vidéo tournée place de la Contrescarpe, où l'on voit un homme, pris à l'époque pour un policier, s'en prendre violemment à un couple. Puis une autre vidéo au Jardin des Plantes, où la même personne arrête aussi violemment un jeune homme. Ce n'est que le 18 juillet que le Monde découvre et révèle l'identité de cet agresseur, qui se trouve être Alexandre Benalla, et qui n'est pas du tout policier ni gendarme. Alors, avant cette révélation, les vidéos n'avaient soulevé qu'une indignation mitigée, parce que quand c'est un flic qui tabasse des manifestants, on ne s'en indigne pas non plus énormément, on considère qu'ils ont bien le droit, et puis même qu'ils sont payés pour ça. Par contre, à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il n'était pas officiellement membre des forces de l'ordre, et qu'il n'avait donc pas un permis de tabasser en bonne et due forme, c'est le scandale. On s'indigne parce qu'il portait un casque et un brassard de la police. Tout le monde s'y intéresse, tout le monde se met à enquêter sur lui et on apprend qu'il avait un logement de fonction, une voiture de fonction et puis un badge pour accéder à l'Assemblée nationale. Avant de travailler pour Emmanuel Macron, il a travaillé pour Arnaud Montebourg, qu'il a licencié pour faute professionnelle. Il aurait provoqué un accident de voiture et tenté de prendre la fuite. Il a été réserviste de la gendarmerie. D'ailleurs, on découvre assez vite et sans surprise qu'il rêve depuis toujours d'être garde du corps. Il a fait son stage de 3e au service national des hautes personnalités, des protections des hautes personnalités. Et plus tard, il a été réserviste à la gendarmerie. Il est embauché lors de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron comme responsable de la sécurité. Puis il obtient le poste d'adjoint au chef de cabinet du président de la République. Poste très flou qui serait différent de celui de chef adjoint et qui consisterait principalement à coordonner les services qui participent au déplacement des ministres et du président. On découvre aussi que ce n'est pas la première fois qu'il se montre violent de façon disproportionnée. Il a en effet agressé un journaliste de Public Sénat qui ne faisait que prendre des photos lors d'un meeting de Macron à Caen. Il existe aussi une vidéo du jour de la déclaration de candidature de Macron où un militant communiste se fait très violemment ceinturer et éloigner. Un autre point qui interroge, Benalla a obtenu les enregistrements de vidéos de surveillance du 1er mai en les demandant tout simplement. Je m'arrête là, bien qu'on puisse certainement élargir la liste, mais c'est déjà assez long et passons plutôt à la suite.
Oui, alors, contradiction, c'est que dans cette histoire, tout est flou, dans cette histoire de Benalla. Il faut dire, l'affaire Benalla est une aussi affaire politico-médiatique et judiciaire. On se rappelle, lors de son premier discours sur le cas Benalla, le président Macron fistisait, si vous voulez, la récupération politique, comme disait-il, à son opposition. Donc c'était à la maison de l'Amérique latine, devant son gouvernement et certains membres de la majorité à l'Assemblée nationale, qu'Emmanuel Macron avait qualifié l'affaire Benalla, je le cite, comme un spectacle ou la tentation pour presque tous les pouvoirs est sorti de son rôle. Une phrase courte, mais par contre, elle a fait réagir tous les adversaires politiques de Macron. Il faut rappeler, l'énonciation de cette phrase vient des réactions et le choix exprimé par certains leaders, par ses opposants, notamment le leader de la France insoumise, qui avait demandé l'audience du président de la République devant les commissions. Pour répondre aux interrogations des parlementaires. Car Mélenchon, pour Mélenchon, Macron est le seul à pouvoir clarifier les choses. Mais malheureusement, la Constitution protège le président à ce niveau. Mais il faut dire, l'État quand même a pris du temps pour se présenter devant le Parlement et répondre aux questions des parlementaires sur le dossier Benalla. Dans son discours, d'ailleurs, le président Macron s'est montré sceptique sur le travail des journalistes. Pour Emmanuel Macron, la presse est une presse qui ne cherche plus la vérité. À ce dieu, il voit un pouvoir médiatique, comme disait dans l'article du Monde, un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire. Mais là n'est pas la question. La question qu'il faille se poser, qui ne dit pas la vérité, qui cherche à cacher quelque chose dans cette histoire, et non qui dit la vérité. Donc je suis un peu moi-même contredit. Donc, car dans cette histoire, il faut rappeler, tout est flou. Chaque fois, les médias nous font des révélations. C'est comme un feuilleton brésilien où souvent, il y a un nouvel épisode. Mais malgré que les médias ne cherchent plus la vérité, mais néanmoins, ils nous font vivre les contradictions en contradiction entre les hommes censés être proches de cette affaire. Oui, proches de cette affaire. On va, si vous voulez, commencer notamment par le noyau même, Benalla, le ministre de l'Intérieur, le directeur de l'ordre public et de la circulation, Alain Zibinan, et le préfet de la police de Paris, Michel Dupuis-Sempach. Chacun d'entre eux tire le drap de son côté. D'abord, une confusion au niveau du statut. Donc, on vous a dit, jusqu'à maintenant, il est connu comme garde du corps du président Macron et beaucoup lui présentaient comme adjoint au chef du cabinet du président Macron. Et pourtant, ce poste, comme disait mon collègue, est occupé par Rodrigue Furchi. D'après les dernières révélations faites par les médias, malgré que les médias ne disent pas la vérité. Donc, la carte de visite que détenait Benalla a été confectionnée par le service de la présidence de la République. Donc, une information importante à retenir. Jusque-là, Benalla n'était pas le chef du cabinet du président de la République. Parmi les hommes entendus, certains reçoivent toute responsabilité dans la gestion de l'affaire Benalla. C'est comme fut la réaction de l'ex-ministre de l'Intérieur qui s'est désolidarise d'une quelconque faute dans la gestion de l'affaire Benalla. Gérald Collomb estimait que ce n'était pas à lui de saisir la justice pour le comportement de Benalla. Il pointe le doigt au préfet de la police de Paris et aussi le directeur du cabinet de la présidence de la République, puisque c'est lui l'originaire de Lyon, après avoir été informé le 2 mai dans l'après-midi par son cabinet de l'existence de la vidéo de surveillance. Pour lui, les destinataires, j'ai bien dit, de la vidéo étaient le préfet et le directeur du cabinet. Donc, c'est à eux de prendre les sanctions et d'informer les autorités compétentes. Une affirmation démentie par le préfet. Donc, on rentre dans les contradictions. Une affirmation démentie par le préfet de la police. Selon ces derniers, il aurait informé le ministre de l'Intérieur dès qu'il a appris l'existence de la vidéo. Selon toujours le préfet, c'est environ, je cite l'heure parce que c'est important à mes yeux, et il dit c'est vers 11h qu'il appela le ministre de l'Intérieur qui lui aurait répondu être en contact avec le président. Donc, selon le dit des préfets, le préfet de Paris, pour lui, la découverte de la. Quand le ministre lui informe qu'il était en conversation avec le président, pour lui, il considère que l'affaire est saisie par ses chefs hiérarchiques. Il continue dans ses justifications et rappelle au ministre qu'il est sous tutelle des autorités exécutives. Comme pour dire, le préfet est sous tutelle du ministre du ministère, à moins qu'on renverse les rôles. Pour le moment, on n'en est pas arrivé là. On peut dire aussi que le préfet n'a pas été assez tendre vis-à-vis du ministre de l'Intérieur, puisqu'il a contredit même aussi le ministre de l'Intérieur qui disait ignorer les fonctions de Benalla s'il en avait même une lors de la campagne électorale. Le préfet assure que Benalla était un interlocuteur connu de tout le monde. Donc si un homme comme le ministre de l'Intérieur, qui fut le premier parmi les figures, disons, des personnalités politiques de ce pays, a rejoint Macron pendant la période électorale, dit ne pas connaître le quart du corps du Macron, alors qu'il fut l'interlocuteur connu, selon le préfet, l'homme aimé de beaucoup de figures socialistes, on a cité tout à l'heure, et je ne vais pas revenir. Donc il faut dire, l'affaire Benalla, on peut se poser une question, est-ce une patate chaude? En tout cas, voilà ce qui ressemble à cette affaire, car personne n'accepte d'être rapproché ou avoir lien avec Benalla. Après, le préfet et le ministre, et autour de Benalla d'ailleurs, et le directeur de l'ordre public et de la circulation, après leur passage à l'Assemblée, les deux hommes se répondent en médias interposés. Benalla accuse ce dernier, disons le directeur, d'avoir menti, puisque ce dernier dit avoir rencontré Benalla à plusieurs réunions alors qu'il était en suspension. Donc, de toute façon, on sait que le retour de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde, Benalla était dans le bus. Donc, il faut savoir, c'est quand la Coupe du Monde, quand est-ce le retour? Donc, vous-même pouvez calculer la date, et le 1er mai. À la question de savoir si les autorités de l'ordre public et de la circulation étaient au courant de la présence de Benalla le jour de la manifestation, il faut dire, Alain Zibelin, j'arrive, dit avoir eu le 2 mai au téléphone avec le préfet, disons, qui lui avait notamment assuré au bout de fil d'être dans la totalité ignorance de la présence de Benalla sur sa présentation, disons, le 1er mai. Or, Benalla affirme qu'Alain Zibelin aurait été parfaitement au courant de sa présence comme observateur le 1er mai. Malheureusement, le directeur n'a pas rendu compte à sa hiérarchie, selon Benalla. Benalla dit être invité par le chef état-major de la préfecture, Laurent Simonin, dans la journée du 1er mai. Même si la préfecture rejette cette idée avancée par le chargé de mission au président du président de la République, mais il faut dire que ce chef état-major de la préfecture est mis en examen et des autres aussi cadres de la circulation, de la direction de l'ordre et de la circulation. Ces hommes seraient soupçonnés d'avoir fait parvenir un film de l'incident issu de la vidéosurveillance à l'employé de l'Élysée, selon le journal Le Monde. Il faut retenir l'idée de la présence, disons, de Benalla le 1er mai était connue parmi beaucoup les responsables qui pourraient être proches, disons, de cette affaire. Donc, je ne vais pas citer des noms, mais on sait qu'il y a beaucoup de noms qui ont été cités, comme Michel Dupulsé, mais aussi le préfet et le directeur. même d'ailleurs l'ancien ministre de l'Intérieur, donc il y a beaucoup d'hommes qui sont cités dans cette histoire. Mais de toute façon, il faut dire que Benalla était connu de beaucoup de personnes.
Il était très connu, il était très influent, et comme vont nous montrer les événements plus récents. Donc dans la suite, dans ce qui s'est passé, c'est dans les grandes blagues qui ont pu suivre, il y a toute une tentative en fait de la part du pouvoir d'enterrer cette affaire et de criminaliser les victimes, comme c'est souvent la meilleure solution à faire pour se débarrasser d'un tel problème public. C'est cette politique dont se fait en plusieurs étapes, un déni, une ridiculisation totale de la justice, notamment quand en fait fin juillet, la justice est censée venir chez Monsieur Benalla pour faire une perquisition, pour récupérer un coffre où elle s'attend déjà, en plus elle sait déjà ce qu'elle va trouver, c'est déjà assez magique dans une perquisition, elle s'attend à trouver donc un coffre avec plusieurs armes à feu, et c'était un grand moment, une grande comédie, assez tragique dans un certain sens, où les forces de l'ordre, en fait, avec leur serrurier, n'arrivaient pas à ouvrir la porte, Monsieur Benalla refusant, expliquant qu'il n'a pas les clés, que sa compagne les a, mais qu'elle est étrangère, qui refuse de donner son numéro pour qu'elle les ramène, et ben les forces de l'ordre, au lieu de défoncer la porte comme ils le font dans toutes les perquisitions où ils vont emmerder les copains pour pas grand chose, et ben là sont gentiment repartis en mettant un simple autocollant sur la porte qui officiellement est censé être un scellé, mais bon, c'est un scellé de ce type là sont pour quelqu'un comme Benalla assez simple à remplacer. Et de fait, ils sont en fait le lendemain, ils ont réussi à trouver quelqu'un enfin pour ouvrir cette fichue porte. Et comme par magie, le coffre avait disparu. Voilà. Et sauf que ce qui est drôle à voir, c'est quand même on avait Benalla qui publiquement a simplement gentiment expliqué que quelqu'un était simplement passé récupérer le coffre pour mettre son contenu en lieu sûr et que ça ne devrait poser de problème à personne. Donc une fois la justice totalement ridiculisée par cette affaire, a continué à faire n'importe quoi, et ce qui est intéressant, c'est que ces armes qu'on n'a jamais vues en main propre, on a fini au moins par en voir une photo. C'est un épisode qui est arrivé à la fin de l'été où Mediapart a pu ressortir en fait de l'internet, de ce monstre qu'est l'internet, une vieille photo qui datait d'entre deux tours 2017, où sur Benalla posé tranquillement en grand homme viril à côté d'une serveuse et deux de ses amis avec une arme à la main, donc ce magnifique objet qui possédait un pistolet, et toute la beauté de la chose est que nous sommes en 2007 et qu'il n'avait absolument aucun port d'armes à l'époque, il n'avait aucune raison d'avoir une arme, et que légalement il n'avait surtout absolument pas le droit d'en posséder. Information qui rentre en totale contradiction avec en fait toutes les audiences publiques sénatoriales et devant l'Assemblée qui n'étaient qu'une farce démocratique pour nourrir les médias à ce moment-là, et qui de fait jusqu'à maintenant n'ont eu strictement aucun impact. Donc voilà, on a pu voir cette affaire ressortie, une enquête est lancée pour essayer de comprendre, savoir un peu plus sur cette photo et si c'est d'où sort cette arme. En attendant, donc la justice continue à se ridiculiser. Benalla devait être convoqué fin septembre, début octobre par les juges. L'audience a été repoussée sans aucune date de l'été. Mais par contre, parce que vu cette magnifique justice s'applique à deux vitesses, les victimes de Benalla, donc notamment le couple en question qui a été arrêté et frappé, et pas mal d'autres personnes présentes sur la place de la Comtesse Carpe, ont été appelées au commissariat, placées en garde à vue, et notamment ce couple qui a eu le courage en fait de se révéler publiquement pour pouvoir permettre l'accusation de Benalla, et se retrouve poursuivi pour violence envers les forces de l'ordre. Donc certes, ils l'ont toujours reconnu avoir été pris dans le feu d'action et avoir envoyé un certain nombre de projets sur les forces de l'ordre présentes, mais jusqu'à maintenant il n'a pas été poursuivi, et c'est quand même assez intéressant de voir le calendrier, et qu'à partir du moment où la grande vanne médiatique commence à retomber, et ils se retrouvent accusés, où on leur fait clairement comprendre qu'il est temps de se taire pour pouvoir laisser Benalla tranquille. Donc je pense qu'à un moment donné, ou que dans un pays où on va une justice à deux vitesses, où les puissants continuent à être protégés, la justice met à leurs genoux, et que de l'autre côté, des véritables victimes deviennent, médiatiquement parlant, les nouveaux bourreaux, la dictature n'est pas le plus très loin.
Ok, Benalla, si vous voulez, je voudrais juste rajouter à moi, que si vous avez quelque chose à dire, mais sinon je pense à rajouter pour dire que quand les sénateurs se sont intéressés au dossier, plusieurs personnes, comme je disais, ont été entendues. Et c'est comme le cas aussi de François Xavier, le chef du cabinet des cabinets du président, qui a laissé entendre que Benalla Asie en dehors de ses fonctions à la présidence de la République. Donc, pour dire, c'est que beaucoup de personnes se dédouanent de cette affaire. Selon ces derniers, il avait confié au sénateur qu'Alexandre Benalla n'avait pas exercé les missions de police. Alors, on peut se poser la question, pourquoi était-il là? Mais il nous dit que c'était pour notamment connaître comment gérer une grande manifestation. Donc, pour dire que peut-être, est-ce qu'on peut se demander est-ce qu'il avait un projet pour notamment avoir, disons, dans son CV, avoir dit que je participe à une manifestation aussi grande. Mais dans son projet, il y a, d'après cet officier, il dit que notamment, il est aussi chargé de la coordination sous l'autorité du directeur des cabinets. Il y a des services à ce niveau. Il faut dire qu'il y a le commandement militaire, mais aussi le ZSPR. Le ZSPR, alors, c'est le groupe de sécurité de la présidence de la République. C'est une unité de la police nationale française et de la gendarmerie nationale qui est rattachée administrativement au service de la protection, SDL. Aussi, un service de la police nationale française chargé de missions de protection rapprochée et d'accompagnement des sécurités au profit des dirigeants et ex-dirigeants de la République française. Donc, on pourrait bien dire et comprendre la version d'Eco Bio Farima, le commandant militaire de l'Élysée, lors de son passage au Sénat, le 25 juillet 2018, qui disait que Benalla n'était en charge de la sécurité du président de la République que cette mission relevait au commandement militaire et ZSPRZ. Donc, pour dire que vraiment, c'est quelque chose qui ne revenait pas à titre personnel, notamment pour gérer, je ne sais pas, une organisation de manifestation.
Ouais. Je crois que c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Est-ce qu'on a un agenda ?
Alors, au niveau de l'agenda, il n'y a pas grand-chose de prévu cette semaine. C'est les vacances pour tout le monde. Mais ben, voyons un peu plus large. Je vais vous parler en quelques mots d'un truc qui va se passer le 5 novembre, enfin d'une réunion qui peut intéresser quand même beaucoup de nos chers auditeurs et auditrices. Et un nouveau collectif va se lancer qui s'appellera Grabuge, qui est donc un collectif d'écriture qui a pour but à terme de produire en fait des contenus à destination des magnifiques médias locaux que sont Rébellion et Radio Canu. Et peut-être on peut espérer à terme là une version papier. Donc voilà, donc c'est un collectif d'écriture qui va se lancer et qui aura pour premier dossier un dossier sur les TCL, donc il y a un problème qui nous concerne absolument tous. Donc l'idée, bah, c'est donc de traiter la question des TCL sous différents angles. Et les copains vous attendent très nombreux et nombreuses le 5 novembre à 19h au CEDRATS. Sinon, bah, dans cette semaine, on est très nombreux à vous conseiller de vous descendre dans le sud. Il fait encore beau. À Marseille, c'est la plaine. C'est sympa. Il y a beaucoup d'ambiance. Et donc, bah, venez nombreux soutenir les copains. Ça, je pense qu'on peut que s'amuser là-bas.
Ah oui, il y a le soleil encore au sud.
Il y a encore du soleil au sud. Donc, allez, on va.
C'est un bon plan.
Trouvez ça comme excuse si ça vous va. Et puis, descendez aider.
Ah ouais.
Bah écoutez, je crois que pour cette semaine, on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire. Et puis, bah, on ne peut que vous souhaiter donc une très très belle semaine. Et vous dire à la semaine prochaine.
Peut-être à la semaine prochaine.
Ah oui, peut-être.
Je crois qu'on va pas être nombreux.
Je veux être stone, quand je suis stone, je veux être libre.
Ni gloire, ni rançon.
J'emmerde tes merci.
Je me fous de nos chansons,
de ce qu'on a construit.
J'emmerde ce verger.
La récolte de ses fruits.
Sans étoiles du berger.
Je mets moi dans la nuit.
vacille. Suite et fin, quand plus mes langues fatiguent, comment ça va se terminer? Je sais pas, j'ai pas idée, je reste là, sans paniquer, dans ma tête agitée. Bien sûr qu'il est temps, j'étais élégante, puis toujours entre naissance, on sait les noms de nos accidents de parcours. Enterre-nous dans le cœur de l'hydre jusqu'au prochain essai, et reçois ces titres comme un faire-part de décès. Collégien à l'heure des premières, il m'empilait enivré, j'ai pu mes notes empirées sans filer, je me suis jeté dans le vide sans peur comme un décérébré. 15 années plus tard, qu'ai-je donc vraiment à célébrer? Échec ou réussite, le succès demeure fantôme. Préposé à la fuite, errant dans le cyclone. Vraiment, rien ne m'abrite, les yeux derrière les paumes. Lassé, cité poursuite, j'en ai tous les symptômes. Strophe acerbe, mode d'asset, discipline assidue, boss cassette. Cause ta perte, plume trempée dans la ciguë. Taciturne et concis, la patience aidant. J'aime être compris, pas omniprésent. Je préfère le fond à la forme, peu importe l'âge. Écrivez vos punchlines, nous on s'occupe des attaches. Bientôt poussière étoilée dans le ciel voilé. Deux frères de son dans leur voilier, par leur voix liée.
D'entendre dans l'ordre de passage trois groupes de la région lyonnaise. Tout d'abord Schlass avec le morceau Kiki, ensuite Yves Le Guillard et le morceau Mon infirmière, suivi enfin de Supernova avec le morceau Adieu l'espèce.
Forgive, shit, fuck, I vomit.